Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast, Le Cercle de la Bougie.
Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez fascinant d'une poétesse qu'on croit bien connaître.
Emily Dickinson.
Oui, cette image de la recluse d'Amherst, toute de blanc vêtue.
Exactement.
Écrivant sur les petites fleurs, les abeilles. C'est une image tenace.
Charmante, oui, mais bon.
Terriblement réductrice, en fait.
Voilà.
Notre but ici, c'est vraiment de découvrir une autre facette. Une Dickinson penseuse, radicale même. Une philosophe, oui, dont les idées, franchement, semblent annoncer des ruptures intellectuelles majeures bien plus tard, au XXe siècle.
Tout à fait.
Imaginez un peu une femme qui voit le soleil comme un tyran, la prose comme une prison pour l'esprit, le genre comme une sorte de performance et qui utilise le gothique, l'horreur même, comme un outil d'introspection.
C'est exactement ça.
Bon, alors, on oublie l'image de la frêle violette pour aujourd'hui.
Voilà.
On se prépare plutôt pour citer Adrienne Rich à rencontrer le Vésuve à la maison.
Ça promet. On va explorer ensemble quatre révélations clés issues de ces textes. Alors, attention, ça risque de bousculer un peu les idées reçues.
On est parti.
Première révélation, alors. Et là, tout de suite, ça surprend. Le soleil. On pense vie, chaleur, vérité.
Le symbole positif par excellence. C'est ça. Mais pour Dickinson, non. C'est une force écrasante, presque tyrannique. Comment elle en arrive là? C'est un renversement total.
Oui, c'est déroutant au premier regard. L'analyse de Wendy Barker qui est dans nos sources est vraiment éclairante là-dessus. Dickinson utilise des mots très négatifs pour le soleil. Supercilious.
Arrogant, oui.
Arrogant, hautain, voilà. Ou même superfluous, superflu, il est souvent lié à une force qui détruit, qui dessèche. C'est une vraie métaphore obsédante chez elle.
D'accord.
Pour elle, ce soleil, il incarne les contraintes extérieures, les plus lourdes. Sa lumière, la crue implacable, c'est le regard jugeur et constant du dieu calviniste.
Ah oui, ce dieu un peu scrutateur.
Exactement. Elle écrit même, c'est glaçant, un télescope perpétuel nous observe. Mais ce soleil, c'est aussi très concrètement la domination patriarcale de son temps. Elle compare l'époux, la figure masculine type, à un homme de midi, un soleil puissant, et ce soleil peut brûler ou blesser. On sent bien sa crainte de cet homme de midi dans une lettre à Susan Gilbert. L'association est très claire. Soleil égale pouvoir masculin, potentiellement dangereux.
C'est fou comme elle retourne complètement cette imagerie. Il y a ce poème que vous mentionnez, Angels in the Early Morning.
Oui, très parlant.
On imagine les anges, le matin, la rosée, tout est frais. Ils cueillent des bourgeons. Mais après, quand le soleil tape, quand le soleil est le plus chaud, les mêmes anges soupirent et emportent les fleurs desséchées, loin des sables brûlants. C'est terrible, en fait. Le soleil devient synonyme de mort, de flétrissement.
Absolument. Et ce n'est pas juste une jolie image. La portée philosophique est énorme. En faisant du soleil un ennemi, Dickinson remet en cause tout l'ordre établi. L'ordre naturel, bien sûr, mais aussi l'ordre social, patriarcal, et même l'ordre divin tel qu'on lui présentait.
C'est un acte de résistance, en somme.
C'est ça, un acte de résistance intellectuelle. Elle rejette cette lumière trop crue, trop normative, celle des conventions. Elle lui préfère l'ombre, la nuit, le clair de lune. Ça devient ses territoires.
Des espaces de liberté.
Oui, de liberté et de mystère aussi, propice à l'introspection, à trouver sa propre voie. C'est vraiment la première pierre de la construction de son monde intérieur.
Et ce rejet des ordres extérieurs, cette quête d'un espace à soi, ça nous conduit logiquement à sa vision de la prose. Et là aussi, attention.
Oui, ce n'est pas juste une question de style littéraire.
Non, c'est bien plus que ça pour elle. C'est encore une idée très critique, très
vaste.
Effectivement. Wendy Barker, encore elle, montre bien comment prose devient une métaphore très forte chez Dickinson. Ça englobe tout ce qui est banal, restrictif, sans imagination, voire spirituellement mort.
Comme quoi, par exemple?
Mais les conventions sociales rigides, les serments religieux un peu dogmatiques, répétitifs, les attentes de la famille, tout ce qui peut étouffer l'esprit créatif, en fait. Ce carcan.
D'accord.
Et c'est une force activement négative pour elle. Dans un poème, elle accuse carrément les vents prosaïques d'avoir soufflé sur son esprit et d'avoir fait disparaître son joyau créatif. De l'avoir laissé engourdi, quoi.
Cette idée que le conformisme, c'est une prison pour l'esprit.
C'est central chez elle, absolument. Mais ça nous mène tout droit à ce poème très connu. « They shut me up in prose because they liked me still. » Ils m'ont enfermé dans la prose parce qu'ils m'aimaient tranquille.
Le jeu de mots sur style est génial.
Oui, tranquille, silencieuse, mais aussi immobile, figée. Mais, et c'est là que c'est fort, l'analyse dit bien que ce n'est pas une plainte.
Non, pas du tout.
C'est une déclaration d'affirmation victorieuse. Quelle force!
Exactement.
Elle dit, en gros, « Vous pouvez bien m'enfermer dans votre prose. Mon esprit, lui, mon cerveau, brain, il continue de tourner. Go round. Il est libre, il bouge tout le temps. » Elle peut même regarder sa prison d'en haut, avec ironie, presque en riant.
C'est une affirmation incroyable de la liberté de la conscience sur toutes les contraintes, qu'elles soient matérielles ou sociales.
Et c'est là qu'on comprend mieux son fameux isolement, alors.
Tout à fait. Ce n'est pas juste de la timidité ou une fuite. Elle a déjà rejeté la tyrannie du soleil extérieur.
Oui.
Alors, elle décide de construire activement une forteresse intérieure. Son retrait, ce n'est pas une défaite, c'est une stratégie, délibérée, pour se créer un espace vital, un espace de liberté absolue.
Un laboratoire, en quelque sorte?
C'est ça. Un laboratoire où elle peut démonter le langage convenu, la prose, et forger le sien, unique, percutant, la poésie. Elle choisit d'habiter la possibilité. Elle dit que c'est une maison plus juste que la prose. C'est magnifique.
Elle protège son authenticité.
Elle fait plus que ça. Elle cultive et elle déploie sa puissance intellectuelle, à l'abri des regards, à l'abri des jugements.
Cette volonté de se libérer des structures imposées, ça résonne de manière très moderne, surtout quand on aborde le genre. C'est notre troisième révélation.
Ah oui, là, c'est frappant.
On dirait presque du Judith Butler avant l'heure, bien avant toutes les théories du genre, Dickinson qui analyse ça comme une performance, pas comme une essence figée. Comment ça se voit dans ces textes?
C'est saisissant. Les analyses de Suzanne Duraz et Shira Wolowski qu'on trouve dans nos sources le montrent bien. Dickinson voyait le rôle féminin qu'on attendait d'elle comme un autre aspect de cette prose sociale.
Encore la prose?
Oui, une prose qu'il fallait soit rejeter, soit maîtriser, jouer consciemment. Le poème « I tie my hat, I crease my shawl »,« Je noue mon chapeau, je plisse mon châle » en est un exemple parfait.
Qu'est-ce qu'il dit, ce poème?
La locutrice décrit, mais de façon très mécanique, presque chirurgicale, comment elle accomplit les petits devoirs féminins de l'époque. Nouer son chapeau, lisser son châle.
Oui, mais ce n'est pas vécu comme quelque chose de naturel, c'est ça?
Non, justement, elle appelle ça un travail cinglant, stinging work.
Cinglant, carrément.
Oui, c'est une corvée, un effort conscient. Et elle dit pourquoi elle le fait. To hold our senses on, pour maintenir les sens en éveil, pour continuer à fonctionner.
Donc c'est plus qu'une simple comédie sociale.
Bien plus. L'analyse suggère que c'est une sorte de rituel de survie, un échafaudage pour tenir debout après une crise, un choc, quelque chose qui aurait arrêté la vie intérieure. C'est une stratégie pour ne pas couler, plus qu'une adhésion aux normes.
D'accord, je vois.
Et c'est là que c'est incroyable pour son temps. Elle postule qu'en dessous de cette performance, de ces gestes appris, il y a un moi profond, un moi sans phare, unshaded.
Une sorte de noyau dur.
Une subjectivité fondamentale, oui, qui existe avant et qui subsiste après ou en dehors des constructions sociales du genre. La personne, dans le poème, joue le rôle, peut-être parce qu'il le faut, mais son essence véritable est ailleurs. Elle n'est pas définie par ses actes extérieurs.
Elle fait une distinction très nette, alors.
Très nette, entre le rôle social, un costume nécessaire pour interagir, et le soi essentiel, authentique. Elle présente le genre non comme une donnée biologique, mais comme un acte culturel, une performance apprise, consciente, et elle le souligne, parfois douloureuse, imposée par la société. C'est d'une lucidité psychologique et sociologique remarquable.
Si le genre est une performance pour naviguer en société, quid des couches plus profondes, parfois plus sombres, de ce moi intérieur? Et ça nous amène à la dernière révélation, la quatrième, sur son rapport au gothique, à l'horreur.
Ah oui, ces poèmes sombres.
On dit souvent « fascination morbide pour la mort ». Mais là encore, les analyses vont plus loin, non ?
Oui, il faut vraiment dépasser cette lecture un peu facile de la morbidité. L'analyse de Dannyn Wardrop, par exemple, est beaucoup plus riche. Pour Wardrop, Dickinson prend les codes du roman gothique. Les fantômes, le suspense, l'effroi.
Oui.
Mais pas pour faire peur pour faire peur. C'est un outil d'investigation psychique. Elle s'en sert pour explorer une identité qu'elle sent comme disjointe, fragmentée. Et là, elle anticipe vraiment des thèmes majeurs du modernisme littéraire.
Mm.
Il y a cette formule incroyable « "'Tis so appalling, it exhilarates ». C'est si épouvantable, ça exalte.
Épouvantable et exaltant à la fois. C'est paradoxal.
C'est ça, hein. Cette exaltation épouvantable, ce n'est pas du sadisme. C'est l'expérience psychologique limite, très intense, quand on est confronté à l'incertitude radicale, à la contingence, à la possibilité que le soi cohérent se dissolve. Un vertige existentiel, en somme.
Un seuil dangereux ?
Oui, un seuil critique, plein de tensions. Pour Dickinson, ce moment d'effroi, ça balance toujours entre deux possibilités. Est-ce que cette horreur mène à une transcendance, une révélation ? Elle utilise le mot « raptord », qui veut dire enlèvement, mais aussi extase mystique.
Ou bien ?
Ou bien, est-ce que ça enferme encore plus dans le secret, l'isolement, l'opacité à soi-même ? Là, elle joue avec le mot « wrapped », qui veut dire envelopper, absorber, replier sur soi.
Fascinant, cette ambiguïté.
C'est cette tension fondamentale, ce potentiel à la fois destructeur et révélateur de l'horreur intérieure, qu'elle explore sans cesse.
Et pour essayer de nommer cette fragmentation, elle va jusqu'à inventer un mot. C'est incroyable. La source parle de ce pronom « thems »,« themself ».
Oui, « themself », stupéfiant.
Un mot qui essaye de dire grammaticalement un soi qui n'est ni singulier, himself, herself, ni pluriel, themselves. C'est une tentative folle de saisir dans la langue même cette réalité d'un moi fracturé, multiple.
C'est une audace linguistique incroyable, qui montre bien sa quête pour dire l'indicible de l'expérience subjective moderne. Donc, ses poèmes les plus noirs, ce ne sont pas juste des épanchements morbides.
Non.
Ce sont des explorations pionnières, courageuses, des angoisses, des complexités de la subjectivité moderne. Elle utilise le langage du surnaturel, de l'effroi, pour cartographier ces paysages intérieurs tourmentés, fracturés, ceux de l'individu qui a fait le choix radical de rejeter les ordres extérieurs, le soleil, la prose, le genre.
Bon, si on récapitule, quatre révélations. Le soleil tyran, la prose comme prison, le genre comme performance, et l'horreur gothique comme miroir du moi fracturé.
C'est ça.
On est vraiment, vraiment loin de l'image de la petite poétesse éthérée.
C'est une philosophe qu'on découvre. Radicale, puissante. Le Vésuve à la maison, ça prend tout son sens.
Et ce qui est frappant, c'est la cohérence entre ces quatre aspects. Ce ne sont pas juste des idées lancées comme ça. C'est un système, une philosophie de la libération intérieure.
Elle n'a pas fui la réalité, alors ?
Non, loin de là. Elle a construit, avec une détermination farouche, une réalité alternative. Un monde intérieur qu'elle jugeait plus vaste, plus authentique.
Un monde à sa mesure. Oui, un univers nocturne plutôt que diurne, poétique plutôt que prosaïque, où l'identité est un jeu de masque et où même l'effroi peut être une voie vers la connaissance de soi. C'est une pensée d'une force qui nous parle encore énormément aujourd'hui.
Et en nous livrant comme ça les clés de sa forteresse intérieure, en nous montrant sa lutte pour préserver son intégrité, est-ce qu'au fond, elle ne nous tend pas un miroir ? Parce que face aux soleils écrasants de notre propre époque, idéologiques, sociaux, technologiques, avec nos propres formes de prose qui nous enferment parfois, qui ne ressent pas ce besoin, de temps en temps, de chercher à bâtir en soi une maison qui soit, allez, disons-le, un peu plus juste que la prose ambiante ?